Recoins de la Bible, un podcast pour nous immerger dans les Écritures.
Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la transmission de l'enseignement de la Bible, d'une génération à l'autre. Pour participer à cet épisode, il y a Étienne, Hervé, Joël et Patrice. Bonjour à tous.
Bonjour. Bonjour.
Est-ce que quelqu'un d'entre vous pense à un premier passage de la Bible à ce sujet?
On peut regarder dans le livre de l'Exode à deux aspects de ce que l'Éternel demande à Moïse d'enseigner au peuple et des parents à transmettre à leurs enfants. Alors dans le livre de l'Exode au chapitre 13 et au verset 8. Et tu raconteras ces choses à ton fils en ce jour-là, disant, c'est à cause de ce que l'Éternel m'a fait quand je sortis d'Égypte. Donc ici, et tu raconteras ces choses à ton fils. Au chapitre 12 et au verset 26, et quand vos enfants vous diront, que signifie pour vous ce service? Il arrivera que vous direz, c'est le sacrifice de la Pâque à l'Éternel qui passa par-dessus les maisons des fils d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa les Égyptiens et qu'il préserva nos maisons. Ici donc, ce sont les enfants qui viennent poser une question.
Je pense qu'il est très important de parler de l'interaction justement entre parents et enfants selon les Écritures dans le Seigneur. Et nous poserons plusieurs questions sur base de ces premiers versets qui ont été lus. C'est qu'est-ce qu'il faut transmettre aux enfants? Comment transmettre ces choses aux enfants? Et à partir de quand devons-nous transmettre les choses du Seigneur aux enfants? Ensuite, on parlera aussi des résultats et des promesses de Dieu à ce sujet. Alors je reviens à la première question. Que faut-il transmettre aux enfants?
Il faut transmettre ce que chacun lui-même a déjà reçu de la part du Seigneur, avoir rencontré le Seigneur Jésus, le connaître pour son Sauveur, pour son Seigneur, connaître la grâce de Dieu.
Il est évident qu'il est impossible de transmettre quelque chose qu'on n'a pas reçu soi-même. Et d'ailleurs, nous avons lu dans ce passage, quand vos fils vous demanderont que signifient pour vous ces choses. Pour vous.
On peut peut-être souligner aussi le fait que c'est quand ils viendront. Les besoins d'un enfant sont spécifiques à tout âge, et donc vouloir apporter de la nourriture ou des enseignements qui ne correspondent pas aux besoins de l'enfant sur le moment risque d'être inutile ou en tout cas peu exploité par l'enfant. Donc on voit que c'est quand l'enfant viendra poser la question, alors vous leur direz. Vous devez être prêt à leur répondre, vous devez savoir quoi leur répondre, mais c'est quand ils vous le demanderont. Il y a un moment approprié pour apporter cette nourriture.
Oui, c'est vrai. Il faut leur préparer un terrain qui propice à ce que les enfants viennent à nous. C'est-à-dire se montrer ouvert aux questions, se montrer accessible aux enfants pour qu'ils viennent nous poser ces questions. Il faut aussi qu'ils détectent que dans notre cœur, il y a bien quelque chose qui est attaché au Seigneur. Et alors ça leur permettra de se rendre compte que c'est qu'ils peuvent venir poser des questions.
Dans la pensée de la responsabilité de chacun de transmettre justement, on peut lire le dernier verset, l'avant-dernier verset du psaume 22. Ce psaume où David décrit les souffrances du Seigneur Jésus sur la croix. Par anticipation, bien sûr, de manière prophétique, il termine ce psaume en disant au verset 30, psaume 22, verset 30, « Une semence le servira, elle sera comptée au Seigneur comme une génération. Ils viendront et raconteront sa justice à un peuple qui naîtra. » On voit que c'était la responsabilité de chacun de transmettre. Le peuple qui naîtra, celui qui nous suit, eh bien, nous avons cette responsabilité de leur transmettre ce que nous avons reçu. Ça rejoint un peu la pensée de tout à l'heure, je ne peux donner que ce que j'ai reçu, mais une fois que je l'ai reçu, je ne dois pas le garder pour moi-même, je dois aussi le donner, le transmettre à ceux qui me suivent.
Oui, d'ailleurs, nous recevons tellement de la part de Dieu, mais ce n'est jamais une impasse, c'est-à-dire que nous devons être des canaux de distribution également, des canaux de bénédiction. Dans Corinthiens, il est aussi dit que nous pouvons consoler d'autres en fonction de la consolation que nous avons nous-mêmes reçue. C'est un peu le même principe. Et Dieu ne nous donne jamais pour notre satisfaction uniquement personnelle. Bien sûr, nous recevons des bénédictions personnelles, mais elles sont aussi pour le bien de ceux qui nous entourent. Tout à fait.
Dans la transmission, il y a d'abord le support. Il y a la parole de Dieu qui est entre nos mains. Je dirais dans le livre de Néhémie au chapitre 8 et au verset 8. Et ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens et le faisaient comprendre lorsqu'on lisait. Voilà. Donc on peut apporter des passages de la parole de Dieu, mais ils doivent être adaptés. Il faut en donner le sens et l'explication pour que les enfants comprennent quelle application il doit faire, donc en quel moment et dans les circonstances de leur vie de chaque jour.
Il est d'ailleurs précisé dans ce livre, dans le chapitre de Néhémie, que c'était pour les hommes, les femmes et ceux qui avaient de l'intelligence pour entendre. Donc ça comprenait aussi les enfants, verset 2.
Oui, je pense que la parole de Dieu, elle est unique. C'est une parole qui nous vient de la part de Dieu. C'est Dieu qui parle. Et Dieu n'a pas fait une Bible pour enfants, une Bible pour adultes, une Bible pour hommes, une Bible pour femmes. C'est une parole qui s'adresse à tous. Elle est simple, elle est accessible. Et puis, voilà, c'est quelque chose que nous pouvons partager entre générations. Ce trésor de la parole de Dieu, il n'est pas seulement pour moi, il est aussi pour mes enfants. Et c'est toujours une joie de pouvoir transmettre ces choses précieuses et belles de la part de Dieu aux tout petits. Et on pourrait dire, il y a une question d'amour aussi là-dedans. Le Seigneur Jésus, après sa résurrection, a rencontré Pierre et lui a dit, Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre lui dit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et quelle est la première chose qu'il lui dit? Paie mes agneaux. C'est-à-dire, si on aime le Seigneur, eh bien, on aimerait que les petits, les agneaux, aussi connaissent le Seigneur. Et la nourriture, elle est là. Et alors, il faut apporter cette nourriture de la part du bon berger, premièrement aux agneaux, qui deviendront des brebis, qu'il faudra paître aussi. Et donc, cette nourriture, eh bien, c'est la parole de Dieu.
Et elle est graduelle. Disons qu'on peut lire la parole une fois, on recevra une nourriture, on peut la relire, on recevra une nouvelle nourriture, et on peut faire ça indéfiniment. Jusqu'à la fin.
Tant que le cœur est engagé pour le Seigneur, eh bien, il y a véritablement de la nourriture. Et la parole, il est dit, elle est comme la rosée fine sur l'herbe tendre. Comme tu disais tout à l'heure, elle est adaptée aux enfants. Et elle est comme des ondées, une pluie forte sur l'herbe grasse. Un même passage, c'est merveilleux, un même passage de la parole, tout simple dans les évangiles, va parler à un enfant et va parler à un adulte. Et chacun va en retirer quelque chose en fonction de son niveau d'expérience, pourvu que le cœur soit engagé pour le Seigneur.
Mais donc il faut que chaque génération puisse considérer les générations qui suivent, ou la génération qui suit, pour justement donner le sens du passage, non pas comme lui le comprend à son âge, mais comme l'enfant qui se trouve devant lui peut le comprendre à l'âge qu'il a. Donc ça, c'est un point quand même important dans la transmission de la parole de Dieu et du sens qu'elle a. On a parlé du sens de la grâce de Dieu, il y a le sens de la crainte de Dieu aussi. Il faut mettre l'enfant en relation avec le Dieu du ciel, le grand Dieu des cieux, mais aussi le Père, qui a donné son Fils.
Comme on le disait tout à l'heure, il faut apporter quelque chose qui correspond à l'enfant qui pose une question. Et comme tu dis, il faut absolument, en fait, pour bien répondre à une question, il faut absolument bien écouter la question. Savoir quel est en fait le véritable besoin de l'enfant qui pose la question. Et ne pas lui répondre à un autre niveau, plus, il faut vraiment rester au niveau de sa question. Et apporter une réponse fondée sur la parole. Et expliquer. Et tout à l'heure, Joël a dit que que les besoins peuvent être différents en fonction de leur âge. Il y a quand même un besoin qui me paraît commun à tous les âges, c'est la grâce. On peut ne pas s'en rendre compte, mais nous avons tous, à tout âge, déjà petit, besoin de connaître la grâce dans notre vie, c'est-à-dire l'amour, la bonté. Et il faudrait déjà connaître cet esprit de grâce dans notre relation avec nos parents, pour déjà apprendre quelque chose de cette grâce, qui eux vont nous parler, de nos parents, qui vont nous parler de la grâce qu'eux ils connaissent de la part de Dieu, qui est une grâce excellente et suprême. Et donc le sens de la grâce, je pense, doit être commun à toutes les réponses, quel que soit l'âge. Et cette grâce de Dieu, si véritablement nous l'éprouvons dans notre cœur, lorsque nous parlons à d'autres personnes, va nous garder dans l'humilité aussi. Parce qu'il y a ce danger d'être fier de donner des explications. Mais si l'explication porte sur la grâce, alors de quoi serions-nous fiers? Donc Étienne, tu as aussi parlé du sens de la crainte de Dieu, qui est, à mon avis, une composante essentielle et fondamentale dans l'éducation d'un enfant. C'est bien la crainte de Dieu. Alors il ne s'agit pas d'une crainte qui paralyse, mais au contraire, c'est une crainte vertueuse. On pourrait dire le respect de Dieu, l'obéissance, la soumission à ce que Dieu dit. Et ça, c'est très important. On peut apprendre en tant qu'enfant ou enseigner aux enfants beaucoup de choses verbalement, mais il faut surtout montrer l'exemple que nous vivons en tant qu'adultes dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire que ce que Dieu dit a beaucoup d'importance pour nous, et que nous le mettons en pratique.
C'est la différence entre, souvent dans la parole, le verbe entendre, on entend parce que quelqu'un parle, et puis on écoute. Alors celui qui écoute, justement, c'est ce côté de l'obéissance, de la mise en pratique. Parce que ce qu'il a entendu, il l'intériorise, il le place sur son cœur. Pas uniquement sur l'intelligence, mais sur son cœur. Et donc, c'est bien cela, le sens de la crainte de Dieu. C'est d'entendre, bien sûr, ce que la parole dit, d'entendre la voix de Dieu, la voix du Seigneur Jésus, la voix de l'Esprit. Sans doute faut-il grandir pour arriver à ce niveau-là, mais il y a cette obéissance qui est liée. D'avoir entendu la parole, et puis de dire, eh bien maintenant, voilà la manière dont je vais marcher, voilà la manière dont je vais vivre.
Dans les Proverbes, au chapitre 23 et au verset 12, il y a une application de ce que tu viens de dire, Étienne. C'est « Applique ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la connaissance. » Et aussi, ne manque pas de corriger le jeune garçon, quand tu l'auras frappé de la verge, il n'en mourra pas. Tu le frapperas de la verge, mais tu délivreras son âme du Sheol.
Et tout cela nous amène à ce point aussi que nous avions relevé, c'est le sens de la vie. Quand nous avons entendu, quand nous avons écouté, alors toutes les difficultés de la vie, tous les choix que l'on doit faire dans sa vie, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale, ou qu'elle soit dans la vie spirituelle qu'on a avec Dieu, avec le Seigneur Jésus, eh bien, cette grâce, cette crainte de Dieu va nous permettre de faire ses choix et de suivre le chemin que la parole enseigne.
C'est vrai qu'un enfant ou un jeune qui a entendu parler de la grâce de Dieu comme étant une réalité et qu'il a accepté pour lui-même, dans son cœur, eh bien, ensuite, il va devoir marcher et dans cette vie, et il faut marcher avec crainte devant Dieu. Cette crainte, c'est, on pourrait dire aussi, accepter l'autorité de Dieu dans notre vie. de manière très pratique. Et alors, ça donne un sens à la vie sur la terre totalement différent, puisque nous sommes sauvés par grâce, nous avons une autorité qui devient celle de Dieu, qui est bienfaisante, c'est une autorité vertueuse. Ce que Dieu nous demande est toujours pour sa gloire, mais pour notre bien également. Alors le sens de la vie change. Et la vie, alors, a enfin un sens. Nous vivons maintenant pour Dieu. Nous vivons pour le Seigneur Jésus, qui dans sa grâce s'est donné en sacrifice pour nous racheter, et qui est ce maître qui est bon et humble, et qui est celui, ce bon berger qui nous dirige dans le chemin. Alors nous prenons un nouveau sens dans la vie, le sentier de la justice. Et cela nous éloigne du chemin du péché, de manière très pratique.
On peut penser aussi, tout en grandissant, bien que des exemples de la parole nous montrent que dès leur jeune âge, certains enfants ont été placés dans la relation avec l'Éternel et ont reçu déjà ce service qu'ils allaient accomplir. Et donc il y a le sens aussi du service à rendre à Dieu. On est non seulement un disciple, mais on est aussi un serviteur. On reçoit quelque chose, mais alors on peut soi-même aussi montrer l'exemple, transmettre, expliquer, ou simplement agir pour le bien de la maison de Dieu, pour tous les enfants de Dieu, quels qu'ils soient.
Mais en effet, c'est important de bien placer la crainte de Dieu, de leur montrer que c'est pas pour nous faire plaisir qu'on leur demande d'agir de telle manière. C'est pas pour nous faire plaisir qu'on leur demande d'écouter ce que la parole dit, c'est d'abord, avant tout, la parole de Dieu. Et bien souvent, ça donne une dimension un peu plus importante à ce qu'on dit, parce qu'on pourrait vouloir que nos enfants fassent quelque chose par caprice, parce que nous trouvons que c'est de bonne renommée, ça nous rendrait gloire que nos enfants se conduisent de telle ou telle manière, mais finalement, c'est pas pour ça que le Seigneur nous le demande. S'il nous demande que nous soyons attentifs et que nous retenions ses paroles et que nous les mettions en pratique, c'est avant tout pour la gloire de Dieu. Et c'est vraiment, je pense, cette dimension qui est importante à placer devant nos enfants. Ils pourraient prendre ça comme étant voilà, un ordre qui leur tombe comme ça, sans explication. Et si on vient vraiment leur amener cette dimension de la crainte de Dieu, évidemment, les choses ont vraiment une autre tournure.
C'est vrai. Et en fait, on obéit bien que quand on aime quelqu'un. L'obéissance, soumission, autoritaire, dure et rigide, on n'en veut pas dans notre vie. Les enfants non plus. Par contre, un enfant, par exemple, vis-à-vis d'un parent, va être content de lui obéir parce qu'il l'aime. Et si les enfants voyaient que nous aimons tellement le Seigneur que nous obéissons au Seigneur, alors ils vont aimer le Seigneur. En fait, nous devons apprendre par l'exemple aux enfants d'aimer le Seigneur. Si mon papa aime cette personne-là, alors moi aussi j'aime cette personne-là. C'est un peu le principe où les enfants détectent très vite et très profondément dans le cœur des gens. Et il faudrait qu'ils détectent notre amour pour le Seigneur. Nous les mettrons sur la voie pour que eux également, ils aiment le Seigneur. Et quand on aime, on a envie de faire plaisir à cette personne.
Cet amour dans lequel nous allons alors vivre, c'est l'amour que Dieu lui-même a eu envers l'homme, la créature tout entière. Parce que la relation avec lui a été interrompue. On ne va pas refaire toute l'histoire de l'homme, mais on sait que il suffit de regarder autour de soi, tout simplement. Beaucoup de personnes vivent sans Dieu. Et Dieu nous aime par le don de son Fils, par le sacrifice de sa vie, par sa mort, par sa résurrection. Toutes ces choses sont bien expliquées dans la parole de Dieu. Et cela nous montre l'immensité de l'amour de Dieu pour nous. Et nous ne sommes que des pratiquants de cet amour au niveau où nous sommes chacun et dans lequel nous vivons. Et donc, comme Patrice le disait tout à l'heure, en lisant, en relisant et en relisant encore la parole, on apprend. En pratiquant l'amour de Dieu en nous, eh bien, cet amour grandit. Et donc, cette grâce de Dieu, on la connaît davantage. Cette crainte de Dieu, on la pratique davantage. La vie devient plus heureuse, même si nous ne pratiquons pas les joies du monde. Mais nous avons une autre joie en nous. Et tout cela est un exemple pour ceux qui nous suivent. Parce que si on passe à cette transmission proprement dit, l'exemple est quelque chose que tout le monde connaît aussi, le monde aussi sait très bien qu'un enfant regarde la génération qui le précède, la maison dans laquelle il vit. Il voit ses parents et il va faire lui-même d'ailleurs l'apprentissage de certaines choses, mais il va aussi faire le tri des choses qu'il va pratiquer lui-même ou qu'il ne pratiquera pas.
Nous avons donc déjà parlé de ce qu'il faut transmettre aux enfants, je répète, le sens de la grâce de Dieu, la crainte de Dieu, redéfinir le sens de la vie, comment le faire, on a déjà mentionné plusieurs aspects, par l'exemple, c'est-à-dire que, évidemment, ce que nous faisons crie plus fort que ce que nous disons, c'est-à-dire qu'un enfant voit très bien si ce que nous disons est réel ou si nous pratiquons autre chose que ce que nous disons. Il est possible de tromper les adultes pendant longtemps parfois à ce sujet-là, mais un enfant qui vit dans la même maison, ce ne sera pas possible de lui faire croire autre chose que ce que nous faisons ou que ce que nous pratiquons, même si nous disons l'inverse. Et donc l'exemple, ça reste primordial. Alors, nous sommes bien petits et bien faibles, mais nous comptons sur la grâce du Seigneur pour nous aider, mais ça souligne la responsabilité que nous avons d'être constants et sérieux dans l'éducation des enfants devant le Seigneur. Il y a d'autres aspects, alors. Quels sont d'autres aspects sur la manière à transmettre à nos enfants?
Comme on le disait tout à l'heure, il faut venir avec, leur apporter des éléments qu'ils sont capables de comprendre, venir avec des doctrines dans un vocabulaire qu'ils ne comprendront pas, n'aura sans doute pas l'effet escompté, et on ne va pas arriver à les embarquer, ou en tout cas les engager dans l'explication qu'on veut leur donner. On va leur parler à un niveau auquel ils ne sont pas réceptifs. Donc il faut d'abord et avant tout leur parler de manière simple, de manière apporter des choses simplement pour que cette simplicité reste dans les rapports et dans la compréhension de la parole, et que ce ne soit pas finalement, ça devient compliqué de suivre la parole. Et en plus, quand je demande qu'on me l'explique, c'est encore plus compliqué. Donc finalement, je finis par avoir une attitude d'écartement ou d'éloignement plutôt qu'une attitude d'attachement à cette même parole. Donc, il est important que le langage, le discours utilisé avec les enfants soit un discours pour les enfants.
Ouais. Avec amour et véritablement le désir de répondre à la question de l'enfant.
Et le Seigneur Jésus le faisait déjà quand il était sur cette terre. Il avait devant lui des foules qui ne connaissaient pas spécialement bien Dieu comme un Dieu d'amour, un Dieu qui aime le pécheur. Et donc, quand il parlait à ces foules, il prenait des exemples, il prenait des paraboles, des choses de la vie courante, un semeur, un enfant qui quitte la maison paternelle, une ménagère qui a perdu sa pièce. Il prenait des exemples simples pour leur parler. Et il a même dit qu'il parlait en similitude, donc il prenait vraiment des analogies pour les aider à leur faire comprendre de manière simple les choses. Et puis, l'enseignement suivait. Et puis, le rapport à Dieu était donné. Et même les disciples étaient étonnés parfois, se demandaient, mais c'est encore une similitude ou ça n'en est plus? Donc, ils en viennent à lui poser la question. Et je trouve que c'est vraiment important pour les enfants, suivant leur âge, d'amener les choses avec des exemples concrets, ce qu'ils comprennent.
Tout à fait. Il est très important d'établir un lien clair et net entre l'enseignement de la parole de Dieu et la vie au quotidien. Que les enfants se rendent compte que, en fin de compte, quand on a une question concernant quelque chose qui s'est passé à l'école, par exemple, eh bien, on trouve la réponse dans la parole de Dieu. Que la parole de Dieu n'est pas simplement un livre de théorie ou d'histoire ancienne, mais c'est véritablement la parole vivante et opérante qui répond encore aujourd'hui aux questions très actuelles.
On peut aussi soulever l'aspect que cet enseignement doit être positif. La parole de Dieu, on le dit souvent, n'est pas un livre de recettes. On ne trouve pas une réponse à chaque acte qu'on doit poser. C'est un ensemble de réflexions, un ensemble de préceptes, un ensemble d'ordonnances, un ensemble de commandements, surtout dans l'Ancien Testament, et le commandement nouveau, on en a parlé dans le Nouveau Testament, c'est « aimez-vous les uns les autres ». Et ça couvre justement énormément de choses dans nos vies. Mais il faut donc apporter positivement, ça ne veut pas dire que la parole de Dieu ne contient pas de « prends garde », ne contient pas de passages qui nous avertissent en disant « attention à certaines choses, il ne faut pas entrer dans certaines pratiques ». Et dans la première épître de Jean, au chapitre 2, je prends le verset 15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et que trouve-t-on dans le monde ? Bon, ce sont des expressions que l'on retrouve souvent quand on doit prendre garde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Et ça, ce sont des choses que l'on constate très rapidement quand on grandit et qui sont présente devant nous dans la vie. Et donc voilà, il n'est pas dit, il est interdit. Il est dit, ne mettez pas votre cœur dans ces choses-là. C'est encore une manifestation de l'amour de Dieu. N'aimez pas. Il faut aimer comme nous avons été aimés. Et donc cela aussi oriente cette transmission. D'apporter des choses en disant voilà les bonnes œuvres qui sont préparées à l'avance, qui sont là devant nous. Il faut les pratiquer, il faut marcher dans les bonnes œuvres.
Tu disais justement, Étienne, qu'il fallait aussi montrer aux enfants que la parole nous met parfois en garde, nous reprend parfois sur certaines choses, et encore plus nous en tant que parents devant nos enfants, nous devons le reconnaître avec eux. Il y a peut-être ce verset de Timothée 3, au verset 16, qui nous en donne une illustration. 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, comme ça, il n'y a pas de doute à avoir, il n'y a pas de questionnement à avoir. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire. Alors, pour enseigner, pour instruire, oui, on a vite fait de l'utiliser pour comme support pour enseigner les enfants, pour les instruire. Mais il y a aussi pour corriger et pour convaincre. Parfois, il va falloir utiliser la parole pour arriver à convaincre les personnes. Nos paroles ne sont pas suffisantes. Eh bien, on voit combien la parole est complète et elle apporte ainsi le support et les éléments nécessaires pour convaincre et pour corriger, pour instruire, pour enseigner.
Cette parole, elle nous vient de Dieu, un Dieu qui s'est aussi révélé comme un Père. Un Dieu qui nous dit, en Hébreux 12, que nous qui sommes enfants de Dieu, nous ne sommes pas des bâtards, mais nous sommes des enfants de Dieu et donc soumis à la discipline divine. Il y a donc, en effet, dans l'éducation des enfants, de la discipline. Mais la discipline qui est selon Dieu. C'est-à-dire que c'est une discipline corrective et non pas punitive. C'est-à-dire que Dieu ne punit pas, Dieu corrige, dans le sens Dieu instruit, Dieu rectifie. Parfois c'est pas agréable, mais c'est nécessaire. Et c'est toujours en vue du bien. Et donc, cette discipline qui s'applique à nous, parents, de la part de Dieu, eh bien, elle s'applique aussi aux enfants, dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que c'est une discipline bienveillante, afin de montrer, d'ouvrir les yeux aux enfants sur les réalités.
Dans cette transmission, il y a aussi alors la manière d'enseigner, de vivre, mais qui doit amener aussi nos enfants à se poser des questions, à comprendre. On leur apporte peut-être spontanément une réponse, ou on enseigne, on raconte, comme on l'a lu dans le livre de l'Exode, on explique les choses, mais aussi il y a des questions qui doivent venir. Il est intéressant que nos enfants, justement, se sentent à l'aise et se sentent concernés et puissent venir alors vers leurs parents en disant « Mais comme les fils d'Israël étaient instruits, quand vos fils vous diront ? Qu'est-ce que cela signifie pour vous ?» Et donc, il faut que nos enfants ne suivent pas tout ce que l'on fait, venir dans les réunions d'assemblée, participer à des activités que l'on organise, simplement en suivant. Il faut qu'il y ait chez eux cette réflexion qui puisse les amener à poser des questions. Et on l'a dit tout à l'heure, en commençant, il faut donc être prêt à répondre à ces questions. Il faut donc que soi-même, en élevant nos enfants, nous devons savoir ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons, et être prêt à en donner l'explication.
Nous n'avons pas toujours une explication à donner sur le champ. Et je pense qu'il est très important dans une relation avec un enfant, c'est que quand l'enfant pose une question et qu'on n'a pas de réponse toute faite, ou que nous-mêmes nous sommes surpris par la question, eh bien, on dise à l'enfant, allons voir dans la parole de Dieu. Et peut-être, on peut leur dire, nous ne trouverons peut-être pas aujourd'hui, mais nous allons garder cette question à l'esprit, et nous allons continuer à lire la Bible, et lorsque nous trouverons la réponse, alors nous apprendrons ensemble, toi et moi, la réponse à ta question. Et ne pas vouloir à tout prix donner l'impression que nous avons les réponses à tout. Ce n'est pas crédible. Un enfant aussi, un jeune qui grandit, si on a toujours une réponse, ça donne parfois l'impression que les réponses sont fabriquées. Nous avons parfois peut-être peur de perdre la face, mais il ne faudrait pas. En disant simplement, avec humilité, eh bien, je n'ai pas de réponse à cette question, mais je suis sûr qu'elle se trouve dans la parole de Dieu.
Et quelque part, ça leur donne une bonne démarche, hein. C'est déjà les habituer à chercher la réponse, parce que si nous sommes des puits à réponse, eh bien, ils ne se poseront jamais la question de d'où se trouve la réponse. Ils viendront spontanément nous poser la question, et en attendant que nous leur donnons la réponse, et tant que nous ne l'avons pas, eh bien, ils resteront avec leurs questions. Si nous les engageons à chercher ensemble, nous leur donnons déjà le bon réflexe pour plus tard, pour quand nous ne serons plus là pour leur répondre.
En fait, peut-être ça devrait être toujours comme ça. Apprendre ensemble, aller découvrir ensemble, chercher ensemble, sans donner de réponse directement.
Oui, en fait, même si nous connaissons déjà la réponse, parce que nous avons déjà fait la recherche, recommencer la recherche avec eux, et pas simplement leur servir la réponse toute faite et toute préparée comme ça. Aller relire le passage ensemble.
Ça reclarifierait sans doute beaucoup de choses pour nous-mêmes déjà.
Exact.
Qui avons l'habitude de certaines choses, et finalement, tiens, la parole n'est quand même pas aussi, aussi catégorique que moi. Elle ouvre quand même la possibilité.
Exact. Et puis ça donne aussi à l'enfant la bonne impression que nous restons dépendants du Seigneur. Et nous n'avons pas décidé une fois pour toutes il y a 20 ans que c'était comme ça. Nous recreusons les puits. Et puis aussi, ils se rendent compte alors que la réponse ne vient pas de nous, mais qu'elle vient de quelqu'un qui est au-dessus de nous, le Seigneur. Et que ensemble, nous sommes prêts à nous y soumettre. La soumission est quelque chose qui est parfois difficile à accepter, mais la vie du chrétien est une vie de soumission. Les enfants doivent être soumis à leurs parents. Enfants, obéissez à vos parents. C'est un enseignement de la parole. Mais les parents doivent être soumis à Dieu, pour commencer. Et donc, je demande soumission à mon enfant, parce que c'est selon la parole de Dieu, mais il faut aussi que lui voit que moi je me soumets à Dieu, parce que c'est aussi dans la parole de Dieu.
Apprendre la dépendance plutôt que l'indépendance.
Puis quelle joie aussi de se soumettre à l'enseignement biblique, pas seul, mais ensemble. Ça crée des liens, ça crée une relation où vraiment, ça se passe déjà dans le couple, où mari et femme, nous nous soumettons, nous sommes mariés dans le Seigneur, nous nous soumettons ensemble au Seigneur, et puis ensemble avec les enfants, ça prend une dimension encore plus belle. Alors maintenant, ma question, c'est à partir de quand est-ce qu'il faut commencer à enseigner nos enfants dans les choses du Seigneur ?
On a dit tout à l'heure, par l'exemple. Donc, ils vont regarder ce qu'un couple fait, le premier enfant qui arrive, il ne comprend peut-être pas. Je parle, par exemple, de faire la prière. Il n'y a pas d'ordre donné pour dire il faut prier à tel moment ou à tel moment, mais on le fait. Peut-être l'enfant va-t-il aussi, en grandissant, se poser la question « Pourquoi ?» Donc, il y a des, je ne vais pas dire des habitudes, mais il y a des manières de faire qui peuvent se transmettre dès le plus jeune âge. Dès que l'enfant est dans la maison, dans la famille, il voit les pratiques qui sont faites. Après, bien sûr, on l'a déjà relevé à plusieurs moments, il faut adapter, bien sûr, ce que l'on apporte à l'âge de l'enfant.
On peut dire que les parents qui reçoivent un enfant de la part de Dieu ont la responsabilité, dès le premier jour de la naissance physique, de prendre soin de l'enfant, non pas seulement d'un point de vue matériel, physique, mais aussi spirituel, de préparer l'enfant dès sa naissance pour le Seigneur. Tu parlais de la question pourquoi, par exemple, un enfant va se demander pourquoi faisons-nous la prière avant de manger à table. Mais peut-être la question ce serait plutôt pourquoi est-ce que les autres ne le font pas. Et alors il faut pouvoir répondre aussi à cette question-là, sans juger les autres, simplement dire voilà, nous trouvons cela dans la parole, eh bien, c'est ce que nous désirons faire. Et il faut peut-être aussi apprendre à nos enfants à suivre la parole plutôt que les autres. Parce que très petits déjà, les enfants copient. Alors ils copient d'abord leurs parents, parce que leur monde se limite à leurs parents, mais très vite ils auront des contacts avec des personnes de l'extérieur, et alors ils vont aussi copier ces gens-là. D'autres enfants ou des parents d'autres enfants, qui ne sont peut-être pas non plus, qui ne sont peut-être pas chrétiens, ou qui n'ont pas d'enseignement biblique, ou qui rejettent Dieu même. Et alors, il y a cette tendance aussi à copier ce qui se passe en dehors de la maison.
L'exemple de tout à l'heure était frappant, hein, avec Néhémie, quand, alors qu'on ouvrait un livre de loi qui ne devait pas être facile à comprendre, ça devait être un texte relativement compliqué pour les enfants, et pourtant il est bien dit que ceux qui avaient l'intelligence pour entendre étaient là, et alors il y avait ces Lévites qui avaient ce service de leur expliquer, hein, d'expliquer pour que ce soit bien clair, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, que tout le monde comprenne bien le message que l'Éternel voulait passer à son peuple. On voit que c'était important que les enfants le reçoivent aussi. Alors peut-être que ça va pas leur parler tout de suite, mais les habituer à entendre ces choses-là, savoir qu'elles se trouvent dans la parole. Peut-être qu'ils ne vont pas l'exploiter tout de suite, et nous aussi, nous recevons bien souvent de l'information qui nous est inutile sur le moment, mais combien de fois nous n'arrivons pas « Ah, tiens, j'ai déjà entendu parler de ça », ou « Ça me rappelle une information, je sais plus ou moins qui me l'a transmise, ou je sais dire à quel moment c'était », et donc on arrive ainsi à retrouver cette information. Les enfants fonctionnent aussi comme ça. Si nous avons habitué à leur amener les enseignements de la parole, ils sauront que c'est dans la parole qu'ils vont devoir aller repuiser, recreuser à leur tour pour la trouver. Il y avait ce verset tout à l'heure sur le fait de donner à ses enfants, nous avons la responsabilité de donner, de nourrir nos enfants, non seulement les nourrir physiquement, mais aussi leur apporter cette nourriture. Le Seigneur le disait tout au début de son ministère dans l'évangile selon Matthieu chapitre 7. il posait la question en disant « Quel homme d'entre vous, donc Matthieu 7, verset 9, quel homme d'entre vous, si son fils lui demande un pain, lui donne une pierre, ou s'il demande un poisson, lui donne un serpent ?» Alors évidemment, on pourrait voir cet enfant qui a faim, qui tend sa main, qui demande à son père « Donne-moi à manger », mais on peut aussi voir le côté spirituel. Si l'enfant demande, pose une question auquel nous pouvons répondre en apportant du pain, vraiment quelque chose qui va le nourrir spirituellement, et que nous lui donnons du gravier ou un serpent, nous ne lui rendons pas service, il va simplement prendre ce que nous lui donnons et l'utiliser probablement à très mauvais escient, ça ne lui fera certainement pas de bien.
Ce que tu disais aussi, Joël, sur le fait qu'il y avait dans Néhémie plusieurs générations est très important. Moi, ça me fait penser à la réunion d'assemblée, par exemple, où on pourrait entendre certains parents dire « Oh, mais je n'emmène pas mes enfants parce qu'ils sont trop petits pour comprendre. » Mais je pense qu'ils ont leur place à l'heure de la réunion, même si tout ce qui est dit à la réunion n'est pas compréhensible pour eux à ce moment-là, eh bien, ils font partie quand même du groupe qui sera en contact avec la parole de Dieu. Et puis, peut-être, après la réunion, alors, en tant que parents, on peut poser des questions à nos jeunes ou à nos enfants. Si on a l'impression que le message était trop difficile, trop compliqué, on leur dit « Qu'est-ce que tu as compris ? Est-ce que tu as des questions ?» Et alors nous allons rechercher ensemble à la maison les réponses dans la parole. Et voilà, c'est du temps précieux, le temps de la réunion. Et les réunions ne devraient pas être sectionnées entre générations. C'est toujours beau quand... Et c'est la volonté de Dieu que toutes les générations soient représentées dans un rassemblement local. À l'heure de la réunion, le temps de la réunion et le temps qui suit la réunion, on va dire à la maison, où on peut reparler de ce qu'on a entendu.
De toute manière, on est toujours étonné de réflexions des enfants. Ils sont parfois un peu distraits à la réunion, pense-t-on, occupés à des choses qu'on leur a données. Et puis, par après, je l'ai déjà entendu de mes enfants ou de mes petits-enfants, de dire « À la réunion, on a dit ça ». Donc, dans cette impression de distraction, il y a malgré tout une écoute des enfants et justement, ils captent quelque chose qu'ils ont compris, qui a un sens pour eux. D'où l'importance qu'ils soient présents, même si on a parfois l'impression d'être trop compliqué. Mais voilà, il faut apporter un message à toute l'assemblée, à tous les âges, et ils vont aller prendre ce qu'ils peuvent comprendre. Mais bien sûr, peut-être faut-il alors donner une explication, parfois rectifier un peu le sens de ce qu'ils ont compris. Mais voilà, c'est un temps, en effet, un moment où ils reçoivent aussi un enseignement.
Alors comment gérer le temps? Parce que c'est pas facile aujourd'hui, dans la vie au quotidien, de prendre du temps à passer avec nos enfants pour leur apporter quelque chose de la part du Seigneur, d'un point de vue journalier. Parce qu'on peut amener les enfants à la réunion, mais la réunion ne suffit pas. La réunion d'assemblée est bonne, mais elle n'est pas suffisante pour le développement d'une âme. C'est à la maison, dans la famille, qu'un enfant doit véritablement grandir, pas seulement en entendant les choses de Dieu une fois par semaine, mais tous les jours.
Théoriquement, la vie d'un chrétien, c'est un full-time job. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas à certains moments. Maintenant, concrètement, c'est moins évident.
Il y a un passage de la parole, je ne saurais pas le citer comme ça, qui dit « saisissant l'occasion ». Alors, il parlait de l'évangile, je pense, dans ce passage, mais ça montre que, comme Patrice vient de le dire, tout moment peut être saisi pour apporter quelque chose. Comme on l'a dit tout à l'heure, lorsque le Seigneur était devant les foules, il prenait les activités qui étaient sous ses yeux, le semeur qui sort pour semer, et d'autres occasions sont données. Et donc, dans notre vie de tous les jours aussi, on peut se servir parfois justement d'un événement, d'une activité, pour apporter un enseignement. Évidemment, ce temps, puisqu'on a dit que, voilà, On reconnaît chacun que le temps passe vite, que les journées se suivent, et on a, quand on prend de l'âge, parfois l'impression qu'on a perdu du temps. On aurait bien voulu, et on voudrait bien rattraper le temps, mais ce n'est pas possible. Et donc, voilà, l'organisation de la journée familiale, puisque on vient de le dire, c'est dans la famille, surtout que l'enseignement et l'apprentissage et la connaissance et les explications doivent être données. C'est peut-être là, justement, qu'il faut réfléchir à avoir des moments en dehors de toute activité qui peuvent être très honorables, mais aussi avoir un temps de partage, de réflexion, de lecture de la parole avec les enfants.
En effet, on peut très bien décider en famille d'attribuer une plage de temps chaque jour pour être ensemble avec les enfants et lire la parole et prier. Tout dépend, la longueur de cette plage peut varier d'une famille à l'autre ou d'un jour à l'autre. C'est une bonne chose, je pense, c'est une bonne pratique. Que les enfants apprennent aussi à une certaine discipline de vie, une certaine hygiène de vie spirituelle, on pourrait dire. Mais on peut aussi utiliser des occasions qu'on n'avait pas prévues. Et comme Patrice le disait, ben, en fait, être chrétien, c'est un mode de vie. On n'est pas chrétien que le dimanche. On n'est pas en mode chrétien le dimanche et les autres jours dans un autre mode. Donc, il faudrait toujours être alerte pour discerner et utiliser ces petites occasions, parfois de quelques minutes seulement, mais qui peuvent avoir beaucoup d'impact. Par exemple, lors d'un trajet sur le chemin de l'école, en voiture par exemple, eh bien, on n'a peut-être que 5 minutes ou 10 minutes, mais qui peuvent être très très utiles pour parler de quelque chose d'important à un enfant. On peut parler des choses de Dieu là aussi, parce que ça s'y prête. Eh bien, utilisons ce temps. Alors maintenant, le challenge qui est de plus en plus présent parmi nous, c'est que les enfants sont connectés avec des tablettes, des écrans, etc. Et ce temps, par exemple, de trajet qu'on avait, même pour aller à la réunion en voiture, eh bien, auparavant, sans la technologie moderne, c'était un temps où on pouvait parler, on était bloqué dans la voiture, on était obligé de parler ou de répondre si on nous parlait. Mais aujourd'hui, si on est dans une voiture à 4 ou 5, et qu'à part le chauffeur, tous les autres sont accrochés à un écran connecté à Internet, où allons-nous ? Ben, à la réunion, mais où allons-nous au niveau de la communication dans la famille ? C'est quelque chose qu'il faudra apprendre à gérer, comme on l'a dit tout à l'heure, de manière peut-être positive, en disant « Bon, alors le temps de loisir, il est important, on ne va pas l'interdire, mais il faut aussi savoir qu'il y a un temps pour d'autres choses, un temps pour toutes choses, et il ne faut pas négliger le temps passé avec le Seigneur à ses pieds pour apprendre. » Et il faudrait que cette envie d'apprendre du Seigneur soit quelque chose qui soit réel, c'est-à-dire que les enfants attendent vraiment ce moment où on va parler du Seigneur. Chacun trouvera peut-être une façon à lui d'éveiller cette curiosité, hein, et des choses de Dieu dans le cœur des enfants. Un enfant, quand il attend quelque chose qu'il a vraiment envie de faire, ben, il est impatient. Alors il faudrait que nos enfants en arrivent au point où ils sont impatients qu'on ouvre la Bible. Parce que c'est tellement mieux que ce qu'on peut obtenir ailleurs.
Et en tous les cas, il faut mieux faire ça chaque jour. Et j'aimerais bien lire un passage dans Exode 16, au verset 4. Il est dit « Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je vais vous faire pleuvoir des cieux du pain, et le peuple sortira et en recueillera chaque jour la portion d'un jour. » Chaque jour, on peut apporter de la nourriture qui va nous permettre de marcher convenablement ce jour.
Un pas après l'autre, un jour après l'autre. C'est vrai que parfois nous enseignons trop peu parce que nous voulons enseigner trop ou trop vite, ou trop à la fois. Enseigner un enfant, éduquer un enfant, ça prend du temps. Il ne faut pas non plus attendre un résultat d'une semaine à l'autre ou d'un jour à l'autre. Un peu chaque jour. Et beaucoup de prières. Et en s'appuyant sur la grâce. Alors, on pourrait parler de certains résultats ou de certaines promesses de Dieu liées justement à l'enseignement des choses de Dieu envers les enfants. On pourrait dire déjà que le Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur la terre, était outré quand on voulait empêcher les enfants d'aller à lui. Les disciples voulaient empêcher les enfants d'aller au Seigneur et le Seigneur les a repris sévèrement en disant « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Et on voit que le Seigneur Jésus prend les enfants sur ses genoux, il pose les mains sur eux et il les bénit. Donc là, on peut déjà voir que Dieu désire qu'on amène les enfants au Seigneur Jésus. Et c'est un désir profond, c'est un désir véritablement réel de la part de Dieu. C'est une offense d'empêcher un enfant d'aller à Dieu.
On pourrait lire aussi dans la deuxième épître à Timothée, on a lu tout à l'heure au chapitre 3 le verset 16, on peut lire aussi les versets 14 et 15. Mais toi, l'apôtre évidemment s'adresse à Timothée, mais s'adresse à chacun, à chaque croyant, à chaque personne en relation avec Dieu, mais toi, demeure dans les choses que tu as apprises et dont tu as été pleinement convaincu, sachant de qui tu les as apprises et que dès l'enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi qui est dans le Christ Jésus. Voilà donc Timothée, cet enfant qui, dès sa jeunesse, avait appris à lire dans le rouleau du livre, dans tout ce qui était l'Ancien Testament, où il ne possédait pas encore ni les évangiles ni les épîtres à ce moment-là. Et l'explication en était donnée, et on voit le résultat, être rendu sage à salut par la foi qui est dans le Christ Jésus. Voilà une promesse et voilà un résultat merveilleux.
Donc le fait de connaître les Écritures, la parole de Dieu, rend sage à salut. Alors qu'est-ce que ça veut dire, être sage à salut? Alors la sagesse dans la parole de Dieu, c'est la connaissance du point de vue de Dieu. C'est-à-dire connaître, discerner la pensée de Dieu. Donc quelqu'un qui est sage, selon la parole, c'est quelqu'un qui a compris ce que Dieu attend de lui. Et quand on a compris ce que Dieu attend de nous, alors nous allons échapper à beaucoup de dangers qu'il y a dans la vie, beaucoup d'embûches, d'obstacles, de pièges qui se dressent devant nous. Alors, Timothée, il était sage au point de comprendre ce que Dieu attend de lui et donc d'éviter les pièges qui se dressent devant lui. Il ne s'agit pas du salut de l'âme, du salut éternel de l'âme, il s'agit du salut dans les circonstances quotidiennes, c'est-à-dire d'échapper aux dangers qui se présentent devant nous dans la vie. Mais parce qu'il connaissait les Écritures, il avait ce discernement pour éviter les pièges. C'est très important d'avoir reçu cet enseignement. Et ce qui est très beau dans le cas de Timothée aussi, c'est qu'il l'avait reçu de la part de sa mère et de sa grand-mère, en qui il y avait une grande foi. Et nous l'avons lu dans ce passage de Timothée, il y a la connaissance des Écritures et la foi qui est liée. Parce que juste la connaissance ne suffit pas. Il faut croire que ce qui est dit est réel, que c'est vrai et que c'est ça qu'il faut faire. Tout à l'heure, Joël, tu as dit qu'il faut enseigner les enfants non pas pour nous plaire à nous, non pas pour nous faire plaisir, mais pour faire plaisir à Dieu avant tout. Et c'est tout à fait juste. Mais en plus, quand ça fait plaisir à Dieu, ça nous fait plaisir aussi. Il y a ce résultat multiple. Alors en effet, il faut enseigner les enfants à suivre le chemin du Seigneur, par amour pour le Seigneur. Mais quelle joie dans le cœur d'un adulte ou d'un homme avancé déjà dans la foi, de voir et de constater que les jeunes, les enfants marchent dans la vérité. C'est aussi une grande source de joie. Et c'est ce que nous lisons dans la deuxième épître de Jean. Dans la deuxième épître de Jean, l'apôtre Jean s'adresse à une dame. Nous venons de parler de la mère et de la grand-mère de Timothée, qui a enseigné leur enfant. Et nous voyons ici une autre dame. À la lecture, on a l'impression qu'elle élève des enfants seule. Et il est dit à la dame élue et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et au verset 4, « Je me suis fort réjoui d'avoir trouvé de tes enfants marchant dans la vérité, comme nous en avons reçu le commandement de la part du Père. » Vous voyez, on dirait que dans cette famille, le Père est absent, le Père physique, biologique. On dirait qu'il est absent, mais le Père céleste est là. Et le commandement vient alors de la part du Père céleste. Et puis il y a la Mère qui est là pour l'enseignement pratique. Et nous voyons là qu'il y a l'apôtre qui se réjouit de voir que des enfants ont été enseignés selon la vérité et que le résultat de cet enseignement, c'est qu'ils marchent dans la vérité. Alors si c'est une grande joie pour l'apôtre Jean, d'autant plus pour le cœur de Dieu, le Père céleste.
À bientôt pour d'autres sujets bibliques.